d'être avec nous sur l'antenne d'RCFM pour un nouveau numéro de l'émission Sobre à l'eau. Alors on va, durant quasiment une heure, bien sûr, écouter de la musique en rapport avec notre invité qui va évoquer son parcours et des projets qui lui tiennent à cœur et dont il vous parlera dans le courant de l'émission. Cet invité est Jean-Claude Rolian, alors réalisateur, écrivain, poète. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Charles.
Je me suis renseigné, bon, je connais quand même pas mal votre parcours, mais je me suis renseigné, souvent il y a marqué écrivain régionaliste, réalisateur régionaliste. Ce mot-là, c'est peut-être des gens du continent qui vous voit comme ça, je ne sais pas s'il faut rajouter régionaliste à côté d'une profession ou...
Régionaliste, ils ont peut-être raison de le dire, puisque finalement, mes sujets exclusivement sont la Corse. Donc, écrivain, metteur en scène, etc., chanteur peut-être, accessoirement, je me définis davantage plutôt que comme un écrivain que comme un homme d'expression, puisque j'ai touché un peu à tout. Lorsque il m'arrive, on me propose de faire un travail sur tel ou tel sujet, que ce soit à travers un film, que ce soit à travers des livres, un livre ou autre chose, eh bien, ou une pièce, eh bien, Milan et petit bien à travailler.
C'est ça votre vue, on va le découvrir durant toute l'émission. En fait, c'est une succession d'aventures les unes aux autres, plusieurs portes qui s'ouvrent les unes après les autres, certaines même en même temps, ça c'est un petit peu pour la métaphore. Alors pour revenir, parce que au Jean-Claude qui est né en 1942, au début, l'enfance, elle se passe où à Bastia, au village, on associe souvent votre personnage au village de Kerked ou à Auritz. Ça se passe où l'enfance ?
Eh bien, au départ, ma toute petite enfance se passe à Sigage, dans un petit village où nous étions réfugiés. Mes premiers souvenirs remontent là, mais des souvenirs très vagues. Je me souviens des bombardements à Bastia avant justement d'être réfugié. Et puis ensuite, c'est le village. Mais je crois qu'au village, je l'ai découvert lorsque j'avais 5 ans. Et là, ce sont les premiers arbres géants, les châtaigniers, qui m'ont profondément marqué, puisque l'un d'entre eux, le plus gigantesque, eh bien, il m'a permis d'écrire mon premier livre.
On va en parler, bien sûr. Le patronyme Rolian, il est de Kerked ou il est d'ailleurs
Certainement pas de Kerked.
Voilà.
Là, je pense que... Et je ne pense pas que nous soyons de Rolian. Il devait y avoir...
Vous n'avez pas fait de recherche de généalogie,
non ? Non, mais je pense qu'il devait y avoir... Bon, c'est une étymologie à peu près normale qui se déroule. Je pense qu'au départ, il devait y avoir un Aurelianus, qui est devenu un Aurelianus et puis Rolian à la fin, mais je ne sais pas, je n'ai pas de... Côté Rolian, je ne me suis pas découvert des ancêtres.
Alors, qu'est-ce que, étant jeune, vous rêviez par rapport à je sais pas, moi, vos rêves de gosse, c'était quoi? Un petit peu ce que vous êtes aujourd'hui, devenu aujourd'hui, ou vous rêviez d'autres choses? Rappelons le contexte, si on sortait de la guerre, donc peut-être que là aussi on avait des rêves un petit peu, veux dire, même très terre à terre, je ne sais pas, hein.
Je crois surtout que c'est grâce à mon père qui était un merveilleux conteur, qui me racontait des histoires assez extraordinaires, des bribes de légendes. Je pense en particulier à cette comtesse Théola, qui une espèce d'héroïne entre histoire et légende.
Alors, la comtesse Théola, il y a un rapport avec Kerked,
évidemment.
On en parlera aussi.
Et je reviens encore à Ougaon du Malconzi, donc mon père me racontait mais des éléments extrêmement réduits, et évidemment je faisais travailler mon imagination enfantine, et ce n'est que plus tard qu'est arrivée donc l'élaboration d'un livre. Mais il y avait le village, il y avait des personnages extraordinaires, des personnages qui ne devraient pas mourir tellement ils étaient extraordinaires. Je me souviens de mon voisin Divigo Ventura, lui il écorchait le français couramment, mais il parlait le corse avec la concordance des temps, avec un pouvoir d'évocation extraordinaire. Et alors, il y avait une espèce de complémentarité entre mon père, qui parlait très bien corse, il parlait très bien français, et Diwigo, qui parlait corse aussi bien que mon père, sinon mieux, avec des expressions dont j'ai piqué quelques-unes dans mes livres. Et donc, j'étais nourri à la fois de légendes et d'une réalité que je ne connaissais pas, puisque c'était ce que vivaient donc les uns et les autres, celui-là, mon père, et puis d'autres villageois. Et donc, mon enfance était peuplée de personnages extraordinaires, de Bandi Castelli, etc.
Bandi Castelli n'était pas si extraordinaire que ça. Il avait une...
C'était plutôt un bandit d'horreur qu'un bandit d'honneur, c'est évident. Mais avec mon père a vécu des événements, alors qu'il avait 13-14 ans. Et je suis peut-être un des rares, avec mon frère, à les connaître. et je pense que dans un autre livre, un prochain livre, je ne pense pas, puisque je l'ai travaillé, je me suis inspiré de cet individu qui était un personnage absolument horrible.
Est-ce qu'à l'école, lycée, tout ça, vous aviez déjà cette appétence pour, on va dire, pour le français, pour les langues, pour la littérature, oui ou non?
Eh bien oui, j'ai en français, bon, je ne cherchais pas à avoir un prix, mais bon, il se trouve que j'avais le premier prix de français. Et parce que c'était finalement, non pas parce que j'étais un bon élève, mais parce que ça me plaisait. Je me souviens d'un mois d'octobre, une fin octobre, où il fallait, il y avait une composition de français qui devait se faire le 3, le 4, le 5 novembre, et avec un ami, nous étions allés visiter le cimetière, un cimetière qui était en désordre, puisqu'il avait sauté, lorsque les Allemands avaient quitté Bastia. Et j'ai décrit donc ce décor complètement fou, parce que j'ai écrit, j'ai visité donc ce cimetière dans l'espoir en me disant mais il va en parler, le professeur de français va nous demander de faire une rédaction là-dessus. Et la rédac effectivement s'est faite là-dessus, et comme j'avais des souvenirs tout frais, le monde était bien moins d'ailleurs, et j'ai été premier, je me souviens de cette anecdote. Alors et vous... puis les autres aussi, bon, je me débrouillais pas mal en français.
Disons. Vous nous disiez que votre papa était un formidable conteur, vous l'êtes vous aussi, la preuve, on le sait, votre fille le dit aussi. Donc cette fibre-là, elle vient du côté paternel. A priori, maman, par exemple.
Ma mère me racontait aussi des choses. D'accord. Et elle savait aussi les raconter. Mais mon père était particulier. Comme mon père...
Un peu comme vous avec vos enfants, peut-être.
Il avait... Je crois que eux ont pris aussi la fibre grand paternelle, je dirais.
Et non, parce que justement, vous avez ce plaisir à raconter même, à recevoir beaucoup de monde, à raconter. Vous êtes un petit peu dans cette tradition-là de transmission aussi.
Il faut dire que c'est vrai, oui, je rencontre beaucoup de monde. Mais comme par fait exprès, il m'arrive des tas d'aventures. Et ces aventures, je les projette à travers un livre ou à travers un autre vecteur qui permet de les faire découvrir et de les magnifier peut-être.
En tout cas, on va nous tout de suite écouter une chanson. On va en reparler derrière parce que je ne vais pas annoncer le titre, tout le monde va la reconnaître. Et après cette chanson, je pense qu'on va vous nous le dire, votre vie, je ne sais pas qu'elle a basculé, mais du moins elle a pris peut-être un autre virage. À tout de suite.
Toussi. L'arbre di lume e ne va da lontano. Tu sì, lo dono e lo fiume e l'esia chi canta bien. D'amore chi cammini la montagna, tu sì l'uomo che si muore quando va la l'ombra va. E quando a notte di brutta e voce di dormuta e chiugando di luna con la dada raffonda, tu sì l'arbre di sol tu sì tenerezza. O luz pagà. Tu sì, gioia pulore, ma con te mi merami. Son nato il tuo furore, ma con sì.
Sobralogo, on continue, deuxième partie, votre invité Jean-Claude Rolian. On vient d'entendre Malcunci, cette chanson donc, interprétée par Gianpaolo Bonetti. Alors, on associe votre nom à Malcunci, le berger des morts, etc. En quelques mots, pour les jeunes générations qui nous écoutent, cette histoire, elle naît comment ? Très, très jeune, je crois, parce que vous descendez, vous découvrez un village, enfin en ruine, et à partir de là, il y a pas mal de choses qui se déclenchent.
Alors, il y a tout d'abord, évidemment, le personnage principal, c'est le châtaignier géant Malcunci, et puis il y a le décor. Le décor, c'est l'église Santa Margherita, qui est une des 400 plus belles églises de Corse, tout chauvinisme mis à part.
On est à Carcade. Ah ouais.
ma première escapade au fond du village, c'est un hameau abandonné, quasi abandonné, et je découvre...
Vous êtes jeune là en plus,
ah oui, j'ai 8 ans. Hein. J'ai 8 ans, et je suis accompagné d'une petite fille de 8 ans, je crois que c'est mon premier amour, amour fugace, mais enfin, amour quand même. Elle avait des yeux de biche, elle était jolie comme tout, comme un cœur. Et donc, je tombe à la fois amoureux de l'endroit, qui n'était pas tout à fait à l'état de ruine, mais dans un état de décomposition assez avancé, je veux dire. Et c'était donc des anciennes, un hameau fortifié, médiéval, et il m'a profondément marqué.
Et vous accompagnez toute votre vie.
Hein. Et on peut dire, au point que j'y habite une partie de l'année.
Vous avez refait énormément de choses.
Tout à fait.
C'est devenu un lieu de rencontre, d'accueil, etc.
Tout à fait. Mais en tout cas, le temps s'est écoulé. À mesure qu'il s'écoulait, eh bien, ces maisons en état de vétusté avancée devenaient ruines. Et pour devenir finalement des pans de murs dentelés, dantesques, au milieu desquels des arbres poussaient. Et lorsque le roman a commencé à prendre forme, le manuscrit, eh bien, Malcunci, évidemment, a été le premier à m'inspirer, élément à m'inspirer, l'église, l'intérieur, l'extérieur, et évidemment, les ruines. Et donc, je fais vivre ce que je pourrais appeler le second personnage, le fou, au milieu de ces ruines. Et mieux que ça, dans un four. Pourquoi dans un four ? Parce que mon père me racontait que, au temps de son enfance, il y avait un homme dans le village qui n'avait pas de maison et pour seule habitation qui avait un four et qu'on a trouvé d'ailleurs mort dans son four. Et donc, cela m'a donné l'idée de faire vivre le fou dans le four. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et puis, à mesure que la petite fille, je ne l'ai plus revue. On s'était fait deux bises sur la joue, bien entendu. C'était mon 777e ciel. Et depuis, je ne l'ai plus revue. Et puis le jour est arrivé où je me suis inspiré donc de tous ces éléments.
Vous avez quel âge quand vous écrivez Malcunci ?
Je devais avoir dans les 19 ans. Voilà. Mais bon, je peux vous dire que le livre a été refusé un grand nombre de fois et il ne méritait pas d'être édité par les grands éditeurs. Et ce fut le policier le sans cesse et le repolicier. Bon, j'ai travaillé, retravaillé pour ce début. Bon, lorsque Condoleezza et Brimiba, je n'ai tirguisalt. C'était, disons, un bon devoir de français, de première. Et puis c'est tout, quoi.
Et après cette idée, donc, vous la remettez en forme, etc.
Absolument.
À un moment donné dans votre vie. Alors, ça se situe quand dans votre parcours, à peu près ?
Alors oui, j'ai commencé à l'écrire à 19 ans et il a été édité pour la première fois en Corse. C'est la Maison de la Culture, une pensée pour Henri Marre qui lui avait pensé l'éditer alors qu'il n'était pas une Maison de la Culture. Et puis il n'aurait été finalement, il n'aurait pas forcément dépassé Lille. La chance a voulu que Philippe Alphonse et Pierre Dumayet le lisent, et tout d'un coup, je me trouve catapulté à Paris. Lorsque j'ai compris que Pierre Dumayet s'était intéressé donc à ce que j'écrivais, je commence à mouiller en allant à la Tour Maubourg, parce que Pierre Dumayet faisait partie de mes idoles. Brassens, Brel, Maurice Druon, Bazin, Hervé Bazin, etc. Et lorsqu'il y avait, je me souviens, l'émission de Pierre Dumayet, Lecture pour tous, hein, le générique, l'espèce de tronique à carte postale, ding, 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 et moi, je bavais en rêvant. Alors que j'étais un morpion qui écrivait, c'est tout. Je rêvais d'être interviewé par Dumayet. Tout d'un coup, je me trouve dans son propre appartement, au milieu d'un tas de réalisateurs qui, tous imbus de leur haute fonction à la télévision, s'interrompaient. Paulin avait le Limousin, l'autre avait la Bretagne, l'autre avait... Et puis moi, j'étais le péquenot qui était dans son coin, soucieux de se faire oublier. Mais il fallait bien que je parle de quelque chose.
Eh oui.
J'étais venu, en tout cas, je le pensais, et peut-être Dumayet aussi le pensait-il, parler de la Corse. Et à un moment donné, bon, il fallait bien que je dise quelque chose. Et là, comme on te arrive, je commence à parler d'une civilisation de la mémoire, du chant en tant que fonction, du pic aux pompes que nous matière, et je constatais avec un certain effroi qu'il un silence pesant se faisait.
Il découvrait beaucoup de choses.
Un silence qui m'impressionnait de plus en plus. Et quand je me suis arrêté, Pierre Dumayet est venu s'asseoir à côté de moi, sur ce canapé, et j'ai compris que j'avais carte blanche pour faire 4 films, 86 minutes. Moi qui n'avais jamais touché une caméra de ma vie. Et j'avais carte blanche.
Et là, on démarre des aventures.
Et là, alors, c'est l'aventure qui a une, la seconde aventure, puis la première étant mal concise, qui a démarré. Et j'ai fait intervenir sur ces 4 films tous les Corses dont je pensais qu'ils avaient quelque chose à dire sur la Corse. Et tous les milieux politiques confondus, les milieux sociaux confondus.
Il faut surtout rappeler, Jean-Claude, c'est qu'à cette époque-là, la télévision n'est pas celle d'aujourd'hui, il n'y a pas autant de choses qu'aujourd'hui. D'avoir un espace, même de 5 minutes, c'est déjà énorme.
C'était miraculeux.
Voilà, vous en aviez eu 4 de 26. Donc c'était l'occasion de...
De parler de sa terre et de la défendre.
Voilà, de parler de la Corse, à des gens qui étaient quand même assez ouverts d'esprit aussi, hein.
Heureusement, c'est, voilà. Un type comme Dumayet, bon, et heureusement que c'était lui, parce que sinon, je l'ai d'ailleurs payé très cher après, puisqu'on devait faire Malconci en film, c'était une fiction, j'avais perçu ma prime d'inédit, et tout était prêt un mois avant le tournage. On s'est souvenu que j'avais fait ces 4 films, et c'était quand même le grand scandale à l'époque. Non pas montrer un peuple de bouffons à touristes, mais un peuple en quête d'identité, de dignité, de vérité, de liberté. Et ça, c'était inadmissible à l'époque.
On est aussi dans cette période de réacquiste.
Le réacquiste, voilà. Jean-Paul et moi,
Paulette,
on avait donc, Jean-Paul Paulette et moi, oui, Jean-Paul surtout, avait fondé avec Nadal, Lugiani, Cantabologos, Cecebuto, Miligal, etc. Donc Cantabologos, nous étions les membres fondateurs avec évidemment Jean-Paul, qui était la cheville ouvrière principale, Nadal, etc. Hein. Et donc, c'était la revendication qui commençait, c'est la prise de conscience d'une culture, d'un peuple, d'une nation. Et ça faisait très mal. Et de montrer tout d'un coup, ce peuple qui était aux antipodes de celui qu'on montrait jusque-là, le peuple dérisoire qui faisait rire avec Chouchouchet et compagnie, on montre ce peuple-là. Et évidemment, je l'ai payé pendant un temps. Ensuite, les choses, je me suis rattrapé.
Quand vous dites je l'ai payé, c'est-à-dire quelles ont été, pour qu'on comprenne un petit peu mieux, les sanctions selon vous? Vous avez été mis à l'écart, mis à l'index, ici encore vous avez eu des difficultés particulières, en quelques mots?
Eh bien, tout simplement l'interdiction du tournage de Malconci. Tout était prêt, tout était programmé. Et un mois avant le tournage qui aurait dû se dérouler à Carquetto, alors tout était en place. Il y avait évidemment Canta Obobologos, Idia Maialès, Pecco Barboni qui devait faire les costumes. Alors avec un budget de 70 millions de centimes, je parle encore en centimes,
c'était énorme,
mais enfin c'est pas non plus. Ils ont trouvé le moyen de donner comme prétexte qu'il y avait un dépassement de budget de 14 millions de centimes. Alors qu'en fait, je l'avais triplé en réquisitionnant. Tout est inocheté. Et donc, c'était plus 70 millions, mais c'était peut-être l'équivalent de 200 millions de centimes.
Et ça reste un regret, ça?
Un regret, quelque part, oui, puisque pour l'instant, Malconcillo, je parle de la fiction, n'est toujours pas faite.
Mais il y a un joli projet, on en parlera
et
après.
Oui. Entre-temps, avec Elsa Chabrol, à Viole di Nadale, on devait le faire pour le cinéma, mais là aussi, par contre, elle était tombée sur un producteur qui n'avait que 200 millions de centimes à donner pour ça, et il en fallait beaucoup plus parce que c'était pour le cinéma. Et donc, c'est tombé à l'eau. Et par contre, alors maintenant, alors quelque part, on a censuré en quelque sorte Malconcillo, mais le temps a passé, et puis un beau jour, j'ai signé avec Daniel Peresini, Corse, j'ai été militant clandestin. Et ce film donc est passé comme Antenne 2, comme sur Antenne 2 étaient passés donc les légendaires, les quatre films, est passé donc ce film-là, ce 52 minutes, qui lui a eu un prix international.
On en reparlera dans un instant. Juste un dernier mot sur Malconcillo. On peut dire que, alors, c'est à la fois ce qui peut-être vous a fait connaître un petit peu à tout le monde aussi, hein, ce livre-là.
Ah oui.
C'est plus un poids. Vous aimeriez qu'on retienne de vous uniquement Malconcillo, mais quand vous avez fait beaucoup d'autres choses, est-ce que c'est, entre guillemets, c'est pas le châtaignier qui cache la châtaigneraie?
Quelque part, disons que bon.
Je ne sais pas comment vous le vivez. En fait, c'est ça la question. Voilà.
Je suis quand même un auteur heureux. Hein.
Bien sûr.
Bon, mais il n'empêche que pour un livre en particulier, j'étais presque jaloux de Malconcillo, parce que c'était Visa pour un miroir, et finalement je crois que quelque part, Malconcillo a beau être tout ce qu'il est devenu, Visa pour un miroir, c'était aussi une façon de montrer cette Corse que je continue de défendre. Et il n'a pas eu, bon, disons qu'il a été tiré à 5000 exemplaires au Rocher, il n'a pas dû dépasser les 4500-4600. Bon, Malconcillo, c'est des milliers d'exemplaires. Hein. C'est des éditions qui se sont succédées, etc. J'aurais préféré le contraire, finalement.
On va en reparler de Visa pour un miroir.
Bon, mais ouais. Ça, donc quelque part, c'est un bien grand mot de dire que j'étais jaloux de Malconcillo. Je suis quand même ravi
de le fond de votre pensée.
Mais j'ai un petit pincement au cœur en pensant à Visa pour un miroir, dans la mesure où je pense que s'il avait une meilleure couverture, s'il avait été mieux distribué en Corse, là, il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin, on les dira aux antennes. Et donc, il n'a pas eu le succès que j'aurais souhaité qu'il eût pour faire connaître cette Corse-là et la défendre encore mieux.
Darai che fonde sino a tu caci mali mi sento sangue pesto e membri magurado e pur non ti voglio manda a tribunale. Fai estemme a che stato ingannato. Se tu fosse disposto a sente amo di amma, d'ogni cosa che accorre un resto riembra. Schiera e putato lo secco torna appena d'amore qual è la stagione pensa fa pulizia i corteggi e pure teme pensieri e freddo ogni guadione un ti mancherà nunda nel legno e nel lignamme frutti ne romperaggio da cacciati ogni fame. Thank you. ma cominciai a fare sin dall'uomo de Gesù. Non ti mancherà nonda nel legno e nel ligname. Frutti ne lamperemmo da gacciati ogni
Roliane, votre invité dans l'émission Sobre à l'eau. Nous passons une heure en sa compagnie. On déroule, hein, vous l'avez bien compris, sa vie. On a évoqué Malconchil. On parlera d'un joli projet, d'une série télé tout à l'heure en fin d'émission qui est en train de naître. On espère que ça ira au bout. Puis Jean-Claude nous en parlera, puis on en parlera dans le cadre d'autres émissions. Avant la chanson, vous parliez de Visa pour un miroir. Alors, vous, bien sûr, ça vous paraît, ce sont des choses évidentes. Rappelez-nous, dans quel contexte vous avez écrit ce livre, Visa pour un miroir, suite à quoi ?
Eh bien, l'histoire a commencé à RCFM. C'était Jean-Paul Luciani qui battait le rappel avec Edmond Simeoni, avec Benedetti, mes deux amis.
Et il battait le rappel pourquoi ?
Et il battait le rappel pour donc organiser un convoi humanitaire via la Roumanie. Ceausescu venait d'être renversé et oxy. Et je décroche mon téléphone. Et je me souviens de la standardiste qui me dit « Vous avez les nerfs solides », parce qu'effectivement, ça tirait toujours là-bas. Hein. Et c'est alors qu'il se forme le convoi humanitaire, le convoi ONG, le plus extraordinaire jamais imaginé. Imaginez.
Et rapidement, en plus. Hein,
ouais. Et en quelques jours. Ah, ouais. En quelques jours, Ceausescu est renversé et tué le 24.
C'est quoi, 89
24 hein. décembre, 89, c'est oui. Ça, ouais. Et nous partons le vendredi. Suivant 27 décembre. Et il faut imaginer sur une route qui n'en finit pas, un convoi constitué, composé de ça allait du camion flambant neuf au fourgon Kakoshim, chargé de tout, qui tanguait sous le poids des médicaments, des vivres,
les
des vêtements, des couvertures.
Les Corses avaient été généreux à l'époque, hein. Extraordinaire.
Il n'était pas le moindre petit village qui nous donnait quelque chose.
C'est vrai.
Et donc, nous partons. Alors, il y avait toute la Corse était représentée, hein, tous les milieux sociaux aussi, il y avait évidemment Médecins du Monde, donc il y avait des médecins, il y avait des agriculteurs, il y avait un fleuriste, et il y avait des tas de gens, d'autres, il y avait toute la société corse qui était représentée. Et il faut imaginer ce convoi brinque-ballon qui est à cette allure poussive, parce qu'il n'y avait pas que des véhicules neufs, et ils étaient chargés à rebord. Et j'étais d'ailleurs, dans ma voiture, c'était la plus petite, la voiture chien en quelque sorte, qui pouvait aller, c'était un 4x4, un Lada. J'avais Jean-Pierre Luccioni, donc, qui est de France 3, donc, de
FR3
à l'époque.
Pierre-Jean
Luccioni, je veux dire. Pourquoi j'ai dit Jean-Pierre ? Bon, parce que j'ai Jean-Pierre en face de moi, sans doute. Le lapsus.
Donc Pierre-Jean Luccioni,
et voilà, nous avons vécu ensemble ces 10 jours. Et donc, j'ai vécu peut-être pourtant quelques aventures, là, du Onichoud, hein, mais je crois que ces 10 jours ont été les plus extraordinaires de ma vie. Il se passait, pendant le parcours, lorsque nous sommes à notre point d'arrivée, toujours des choses extraordinaires. Déjà dans le parcours, imaginez un peu, nous étions les seuls à avoir des phares jaunes. Et dans la journée, on rencontrait les convois plus rapides que nous, évidemment, ils étaient moins branlants que nous, je dirais. Nous les croisions, on voyait les croix rouges, les logos de Médecins du Monde ou autre chose. Et là, on se klaxonnait. La nuit, on ne reconnaissait plus personne, sinon les convois français. Alors il y avait les convois français qui s'en revenaient, les Corses qui s'essoufflaient à gagner donc Petrociani, et il n'y avait que les phares jaunes qui nous qui faisait que nous nous reconnaissions. Et c'est ce que j'écris d'ailleurs dans le livre. Ces phares jaunes, c'était des gens qui ne se connaissaient pas, se reconnaissaient à travers cette lueur jaune que la nuit emportait quelque part.
Alors, et le livre, on arrive au livre, Visage pour un miroir.
Et alors là, nous atterrissons à Pietrociani. Alors, il y a la pureté originelle de la neige et le noir des mines de charbon. On aurait dit un film en noir et blanc, avec des enfants qui sont beaux, qui ont des yeux de dessin animé. Ils sont beaux pourquoi ? Parce qu'ils sont des survivants. Ils en meurent, mort de leur paquet. Il y a donc, les étudiants qui viennent, qui se pressent autour de nous pour qu'on parle de cet ailleurs qu'ils ne connaissent pas, qui leur est interdit. Et alors, il se passe des choses assez extraordinaires. C'est de là que a commencé à naître l'idée d'un livre. Ils me disent, ils nous demandaient donc, ils posaient des tas de questions. Et nous, on voyait ce qui se passait. On voyait par exemple qu'il y avait des anciens de Ceausescu qui retournaient leur veste à tous les sens du terme.
Comme c'est le cas souvent, bien sûr.
Ils enlevaient leurs vêtements de luxe pour avoir des vêtements moins voyants, par exemple. Et à leur façon, à leur tic, je dirais, nous les reconnaissions mieux que les étudiants de là-bas, parce que nous avions les nôtres ici. Et on leur disait, attention, méfiez-vous de celui-là, il va se passer ceci. Et les étudiants, au bout du 10e jour, nous disaient, mais comment vous faites, vous qui êtes arrivé ici, qui ne connaissez rien d'ici, à nous, vous nous dites, attention, ceci et cela va arriver, et ça arrive. Parce que nous connaissions toutes les manières de procéder des hommes du clan d'ici et de la sécurité de là-bas. Il était évident que Visa pour un miroir, c'est la caricature monstrueuse d'une Corse que nous connaissons bien. Les vices et les vertus d'un côté et de l'autre, mais formidablement exagérées là-bas. Ou alors il nous arrivait déjà, et même presque à la fin du convoi, et une anecdote par exemple assez succulente, une partie du convoi arrive à Pietrociani et l'autre est bloqué à cause du mazout qui était frelaté et il fallait nettoyer les filtres et donc des camions et les gens s'étaient arrêtés. Et un bruit court faisant croire que nous autres qui sommes arrivés à Pietrociani, nous avons été attaqués par des sécuristes. Et ceux qui sont en arrière veulent nous secourir. Mais c'était complètement irrationnel, ils ne savaient pas où nous étions, ils n'étaient pas armés. Alors ils commencent à se disputer entre eux. Pas en venir aux mains, presque. Et un soldat, il y avait beaucoup de soldats autour de nous, est intrigué par cette dispute. Et à un moment donné, l'un des convoyeurs a l'idée de dire « nous allons voter ». Et alors il lève les bras, il baisse les bras, « est-ce qu'on va faire ceci ou cela ?» Et le militaire voit des bras qui se lèvent et qui se baissent. Il va chercher un de ses supérieurs, plus intrigué et plus inquiété que la dispute même. L'officier arrive. Il voit ça, il lui met la main sur l'épaule, il dit « Regarde bien ça, tu vois ce que tu vois là ? Eh bien, c'est la démocratie. » Et nous avons vécu des choses comme ça tout au long de notre voyage.
Voilà. Et il y avait notamment qui vous accompagnait le groupe Diana Ilad, enfin une partie, certains membres, et ça donnait également cette chanson que vous connaissiez.
E le frontiere, in core tutta l'allegria, siamo giunti qui in Romania, con tutta l'umanità, abbiamo nostro cuore a dare. Per te, Romania, voce riorta, con te siamo pronti alla lotta, e parlati di fraternità, d'amicizia e di libertà. Per te, Romania, a voce riorta, con te siamo pronti alla lotta, e parlati di fraternità, d'amicizia e di libertà. E muistu, lì cidelli,
smintigati e orfanelli e Montesu e Mugavitu di Popandria giustintu e muistu licidelli smintigati e orfanelli e Mugantatu e Muspartutu di la speranza lu frutu.
Per te Rumenia boge riorta con te simu pronti a lotta e parlati di fraternità, d'amicizia e di libertà. Per te Rumenia boge riorta con te simu pronti a lotta e parlati di fraternità, d'amicizia e di libertà.
Queste musiche divine e lo sguardo dell'anima riportava a improvvisare siete voi di pellegrini lontano dall'infini andrete sempre così a cantare l'infini siete voi di pellegrini lontano dagli confini andrete sempre così a cantare l'infini siete voi di pellegrini lontano dagli confini andrete sempre così a cantare l'infini.
Jean-Claude Rolian, votre invité dans Sobre à l'Aube. Alors, on ne pourra pas tout dire parce que une vie, vous l'avez compris, remplie, puis avec encore de nombreux projets. Alors, on sort de Visa pour un miroir, donc de cet épisode de la Roumanie. Vous avez aussi écrit, pardonnez-moi, Jean-Claude, beaucoup, et c'est un peu d'actualité, hein, enfin, depuis des années, sur ce racisme anti-corse aussi. On vous connaît aussi comme, vous avez souvent pris la plume pour nous défendre, enfin, pour défendre tout le monde, ouais.
Bien sûr. Pas seulement le racisme anti-corse.
Non, bien sûr.
Justement, encore que nous soyons, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que des gens qui combattent le racisme font une parenthèse pour les Corses et peuvent se moquer
c'est incroyable.
À profusion
incroyable.
Des Corses.
Par moments, c'est incroyable.
Mais non, mais en fait, c'est peut-être davantage sur Facebook que je réponds à
vous
certaines...
Vous êtes actif, hein, sur Facebook.
Oui. En fait, sur Facebook, je me repose en quelque sorte. Lorsque je suis devant mon ordi et que j'écris mon prochain livre, bon, à un moment donné, Ugerbello...
Il a besoin de
match, ouais. et donc, je m'oxygène un peu en parlant d'autre chose, en écrivant autre chose. Et il est évident que sur le racisme, il m'arrive d'être assez musclé.
Ce sont des convictions.
Par exemple, j'avais inventé une très courte histoire. Je vais vous la dire, elle dure quelques secondes. C'est un beauf à la cabu qui va voir un psychiatre qui lui dit « Docteur, je suis un peu ennuyé parce que dans mon entourage, on dit que j'ai un complexe d'infériorité. Parce que c'est vrai que je n'aime pas les Corses, je n'aime pas les Arabes, je n'aime pas les Pédés, je n'aime pas les Juifs. Est-ce que donc j'ai un complexe d'infériorité ?» Et au psychiatre, je fais dire « Eh non, mon ami, vous n'avez aucun complexe d'infériorité. » Vous êtes simplement inférieur.
Voilà qui résume bien la pensée et qui nous permet d'accélérer et de parler d'un autre thème, Jean-Claude. Alors, Kerkedo dans votre vie, c'est je sais pas, comment on pourrait dire Kerkedo. C'est quoi Kerkedo pour vous?
Kerkedo,
c'est votre deuxième cœur. Enfin,
c'est à la fois un ventre et un royaume, tout simplement. Voilà. Hein. J'évolue depuis des années. Je vis avec un passé qui est composé de gens extraordinaires qui ne sont plus.
Ça a été aussi des souffrances, Kerkedo. Je veux faire juste un petit clin d'œil entre guillemets à un épisode qui était douloureux dans votre vie au niveau de la justice. Vous avez écrit aussi justice
des
en
souffrances,
Corse,
voilà. Des souffrances, même pas. En tout cas, je les ai transcendées. Un juge qui donne une partie d'une maison à celui qui l'a cambriolée, c'est quand même pas banal. C'est vrai que j'ai perdu une moitié de maison, mais j'ai écrit un livre et puis j'en ai écrit un second, parce que ce livre, Justice en Corse, a provoqué tellement de rebondissements que, extraordinaire, l'un plus extraordinaire que l'autre, que je ne pouvais pas faire autre chose que de l'écrire. Alors j'en suis, je crois, à la 100e page, il m'en faut encore une 60aine. Mais bon, il y a eu cette fameuse lettre de menace de mort dont on a découvert le scripteur, qui était évidemment mon voleur. Quant au fils du magistrat, qui avait à Bastia bénéficié de la forfaiture de ce même juge. Eh bien, lui, il a été condamné pour détournement de fonds. Hein, donc, je ne dirai pas son nom.
Les mais choses bon, rentrent dans l'ordre, voilà, on va dire. Allez.
Mais voilà, donc, et cela donc me permet d'écrire deux livres. Bon, alors, je vais faire un peu comme Brassens. Je pourrais presque, qui a fait une chanson sur son cambrioleur, presque le remercier.
Presque. Alors, pour revenir à Kerkède, vous avez accompli tout ce que vous deviez accomplir à cet endroit-là.
Alors oui, là, c'est l'autre aventure. L'autre, c'est l'aventure avec l'agent des films. Bon, j'achète cette ruine et puis je commence à faire notre maison. Alors là, j'ai fait.
Là, vous y impliquez votre famille, enfin tout le monde. Là,
hein. Oui, bien sûr. Et puis ça continue. C'est un travail qui ne finit pas. C'est quand même un ensemble de maisons de tours. C'était un hameau, complètement en ruine. Alors là, pour le reconstituer, relever ces ruines, bien, j'ai joué les architectes, les transporteurs. Alors,
les maçons, vous êtes aussi.
Les maçons, bien sûr. Opératifs. et les manœuvres de mes ouvriers, ce que j'en avais. Puis alors simplement, le transporteur sur ce qui n'était pas une route, mais une piste, eh bien là, c'était une piste boueuse et verglacée en hiver, et avec une remorque que là où il y avait le forgeron, hein, cette remorque non freinée et qui me poussait, parce qu'elle était quelquefois plus lourde que la voiture. Alors inutile de vous dire, je reste à son en sotto, mi drima d'un pilla la courte d'oia, et c'était le salaire de la peur. Hein.
Et alors justement, est-ce que vous, alors peut-être sans faire d'introspection ou de psychologie vraiment de comptoir, mais vous auriez aimé que votre papa, votre maman, voit le résultat de ce qu'est cet endroit, ce hameau aujourd'hui? C'est quelque chose que vous auriez voulu qu'il, peut-être qu'il le voit de là-haut, j'en sais rien, ça dépend des croyances.
Ils ont commencé à le voir, puisque quand même nous avions fait pratiquement fini notre maison. Et ensuite, nous avons fait donc des gîtes. Et là aussi, c'est une histoire complète. C'est un coup de poker. La Castagniccia, elle n'était pas particulièrement connue. Et quand j'ai fait les gîtes, tout le monde riait, tout le monde disait, mais il est fou. Surtout la manière dont je les faisais. Avec les matériaux que j'utilisais. Hein. Et un chouïe me cachait, mais chème ma fausse ligadoglio. Et il se trouve que, bon, c'est vrai que grâce aux livres, grâce aux films, grâce aux télévisions qui viennent, des télévisions allemandes, des télévisions italiennes,
vous êtes souvent visité,
dernièrement, c'est la BBC qui est venue, etc. Vrai. Donc, lorsque les gîtes ont été terminés, eh bien, les autres sont venus. Et en fait, j'avais fait ces gîtes, sachant que ce n'était pas vraiment une affaire commerciale, mais c'était pour reconstituer un endroit qui est magnifique, un patrimoine qui ne m'appartenait pas à moi personnellement, mais à tout un village finalement. Donc, et c'était aussi pour que la vie revienne, un peu de vie revienne. Et effectivement, la vie revient tout doucement. Et non seulement elle revient, mais il s'en est suivi des retombées économiques, puisque des restaurants donc ont pu en bénéficier.
Ça participe à un tour, bien sûr.
Des magasins d'artisanat, etc. Puis d'autres gîtes se sont faits. Et donc, heureusement, ce n'est pas...
Vous étiez un peu précurseur au niveau des gîtes, on peut le dire.
C'était le premier.
Vous étiez le premier.
J'étais le premier. Et finalement, donc mes parents... on a vu une partie, ils n'ont pas vu le résultat quasi final, voilà, ouais. Mais c'est un peu le château de ma mère en quelque sorte, à la Pagnole.
Se tu vera già mano manca, c'è la croce d'ampugnani, c'è casa alta e casa bianca, o silvareccia canta piano. In cima e l'altra ranca, o al moscade San Damiano. sopra lì ci lo cantone, un lontano e Luigino da veicolo già sta zona rusti quei vertino casa in fondo i caracchedu per orezze che rapine. Di buntati lo arrevo, ma esposti in pieno sole, ranagliole o so castello, c'è monagia e piezzole. Ballerà maglio e parada, piatti nulla sorga. Bellolino di verdura, paesoni fortunati, che silenzio e aria pura, non si sono poco cambiati. Si vede la natura come i nostri antenati. Ti prego coraggio e forza per mantenere sta sorgente che la lì l'anima gola sa così profonde e pudente che non c'è nessun scossa sempre viene sempre ardente. E non c'è risposta, sempre viene, sempre ardente.
J'aimerais qu'on parle, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission, Jean-Claude, ça va très vite, parce que on aurait pu rentrer dans le détail de plein de choses. Là, on a survolé, on a envie de parler de plein de livres. Enfin,
allez, c'est où ?
Voilà. Mais j'aimerais qu'on parle de ce nouveau projet. Moi, j'en ai vu trace sur Facebook, justement, par rapport à Malconchi. Il y a un projet, si je ne dis pas de bêtises, de série télé. Vous en êtes au début avec le réalisateur et les scénaristes à collecter des fonds pour pouvoir, j'imagine, lancer, mettre sur rail ce projet-là.
Oui, alors là, il faut dire
c'est
que...
C'est une série télévisée.
C'est une série télévisée, donc il s'agirait de 6 épisodes de 52 minutes.
Ce qui est déjà... Enfin, ce qui est lourd.
Pour, hein, un livre, pour un livre qui ne fait pas 200 pages. Bon, il faut dire que c'est le roman est complètement éclaté. Hein. Alors bon, finalement, il ne m'appartient plus. D'ailleurs, il y a longtemps qu'il ne m'appartient plus. Hein. En fait, il y a eu des tas de gens qui ont repris à leur façon le BD où je retrouve le terme Le Berger des Morts à Marie Ferranti avec la chasse de nuit, par exemple. Donc, Malconchi, il a fait des petits...
C'est le propre d'aller
Et ça, c'est fabuleux. Hein. On ne peut pas rêver mieux. Hein. Et là, alors, il m'appartient encore moins. Alors, il s'agit donc de faire ce travail. Et c'est le roman éclaté, en quelque sorte. Hein. Et on retrouve des peurs, on retrouve des fantasmes, on retrouve des bouts de légende. Et donc,
mais comment ça s'est passé? C'est des jeunes qui sont venus.
Non, c'est Jacques Santon, non pas jamais.
D'accord.
Ils auraient 5 ou Ali Janin, quoi.
Bah, Santucci, je crois.
Santucci, pourquoi je dis Santucci? Décidément, avec les noms propres,
je
les remets. Et donc, Jacques est venu me trouver et il m'a donné les grandes lignes. Donc, et alors ce qu'il y a, il faut dire aussi que Jacques Santucci, lorsqu'il avait 22 ans, un de ses scénarios a été sélectionné au Festival de Cannes. Il n'a pas été primé, mais enfin, il dit Jacques Wacons.
Hein. Bien sûr.
Ensuite, il est quand même sorti le meilleur. Il n'y a pas de notes, il y a des notes, si vous voulez, d'après ce que j'ai compris. Hein. Mais il est sorti, certains mettent 3 ans avant de sortir de l'école Luc Besson. Lui, il est sorti pour la première fois, et je crois qu'il était, je crois avoir compris qu'il était le meilleur. Hein.
D'accord.
Et en plus, un peu dit, ouais, il y a des Gastanich. Hein.
Oui, oui, non, Pépi, il s'est entouré de scénaristes.
Voilà,
il y a également
voilà.
une maison de production, Pasta Pro, en l'occurrence,
voilà.
qui donne un coup de main pour l'instant. Donc moi, j'aimerais juste qu'on dise que, alors, je ne sais pas si la campagne de crowdfunding, c'est-à-dire de pour récolter des fonds, est terminée ou pas. Ça, d'ailleurs, on peut toujours s'approcher du projet et y participer. Mais vous pensez que ça va aller à son terme et vous avez vraiment envie que ça aille à son terme
Non, puis... seulement j'ai envie, mais des tas de gens ont envie aussi parce qu'on le voit sur Facebook.
Je ne sais plus combien il y a de dizaines de contributeurs.
Oui,
il y a du monde.
Oui, hein. Il commence à rentrer pas mal d'argent. Hein. Et puis ça continue par à coup. Et bon, d'abord, c'est un peu tout le monde. Et puis ensuite, ce sera des sociétés. Enfin, c'est le processus classique.
Classique.
Et au Chicabiscobo, comme tout le monde, on a là, moi, je suis davantage spectateur qu'acteur dans ce domaine-là. Hein. Et seulement, je suis quand même... Je pense quand même qu'en fonction de ce que me dit Jacques, de ce que je lis du projet, que ça risque d'être quelque chose qui ne sera pas mal concis au sens où j'en ferai un jour, je l'espère. Et alors, c'est moi qui ai déjà fait le scénario où je tirerai donc un film du roman le plus fidèlement possible. À ce moment-là, je n'ai pas le droit de me tromper. Tant de mes vaches des rares. Mais tandis que là, alors, cette espèce de liberté donnée au créateur, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Bon, c'est vrai que c'est mes dreams world, tu vois, dans les jetons monnaie. Mais bon, c'est une bonne chose. Très bonne.
Dernière question. Avec vos projets personnels, je dirais les plus proches à être publiés, c'est quoi, de la littérature, c'est encore dans le domaine du documentaire, où va votre...
Alors il y aurait deux fictions, non, une surtout pas, la suite de Justice en Corse, et je me souviens à Campus sur France 2, j'avais dit que si j'avais dit une virgule de travers, j'allais en prison. Donc là, ce sera la stricte et triste réalité.
C'est pas de la fiction.
C'est pas de la fiction, mais je suis en train de terminer un autre livre qui sera un peu comme Malconcilio. Donc la même atmosphère, même atmosphère de Malconcilio, mais développée autrement, évidemment, avec des personnages plus actuels. Enfin, ça qui commence, on peut dire, à la dernière guerre, avec une Donatienne qui est un peu l'Arlésienne parce qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui est quand même un des pôles d'intérêt du livre. Deux amis qui ne seront pas forcément surtout rivaux vis-à-vis de cette Donatienne, mais que le clanisme arrivera à déchirer, et ce clan par lequel on vit, qui pétrit un peu l'homme corse, en quelque sorte. Et c'est finalement une vision du clan à travers des luttes dans un village entre deux clans, justement. Mais avec l'atmosphère de Malconcilio, et les peu de gens qui l'ont lu l'ont préféré à Malconcilio.
Ah, et c'est quasiment terminé.
Pratiquement. Mais bon, il faut quand même...
il faut le peaufiner, etc.
Le peaufiner, voilà.
D'accord. Bon, ben écoutez, on va découvrir ça lorsque ce sera le moment.
Mais mes caméras, hein.
Non, mais... En tout cas, Jean-Claude, c'est passé très vite. Hein, et désolé de ne pas avoir pu aussi aborder d'autres... Peut-être que ceux qui nous écoutent...
Ah, je t'en ai piégé.
Voilà, peut-être ceux qui nous écoutent auraient souhaité que l'on parle davantage peut-être d'un autre sujet. Bon, c'était comme ça, c'était très intéressant, très passionnant, comme vous l'êtes, comme vous savez l'être. Merci Jean-Claude, à très bientôt.
Merci à vous, après je te dis...
Voilà, comme oui, sempre au niveau d'émission, à trovarci un'altra volta, ma on si zami kando. Allez, à beige, merci.